Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié. Les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Puisqu'elle ne peut point s'exprimer, elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière sa juste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans ses pioles, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud, un globe-trotter venu nous parler du Togo. Il savait plein de choses. On a réuni nos lumières et on va essayer de vous raconter ça. Alors, je suis là avec Baptiste, bien entendu, heureusement. Alors, le Togo, c'est un des plus petits pays, sinon le plus petit d'Afrique, il me semble. C'est bizarre, la silhouette de ce pays qui ressemble à un couloir. Comment ça se fait, cette forme allongée? C'est le relief? Ce sont les fleuves, les montagnes qui ont dessiné des frontières naturelles?
Je ne crois pas.
Ah bon? Je m'étais toujours demandé si c'était l'histoire ou le relief. Mais bon, ça fait quelques 700 km de long sur une très petite largeur, hein, je crois une centaine de kilomètres de large, c'est très curieux. Il s'étire donc du golfe de Guinée jusqu'au Burkina Faso. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres explications à cette structure, à ce profil bizarre. C'était peut-être les guerres, des vaillants habitants qui ont défendu leur pays, qui ont voulu l'agrandir.
Je ne crois pas.
Ah bon? Alors c'est qui?
Bien, je pense que ce sont plutôt des Européens, des Allemands, des Anglais, des Français par exemple. Tu sais, les colonies, ça te rappelle quelque chose?
Un peu, oui. Ouais. Alors ils ont bricolé ça sur le papier et puis les Togolais n'ont eu qu'à se conformer à ce bricolage.
Voilà, c'est un peu ça, oui, c'est donc principalement les Allemands et les Anglais, encore une fois les Français, on le répète. Je crois que c'était à la fin du 19e siècle, d'une certaine conférence de Berlin. Est-ce que ça te dit quelque chose?
À moi, à peine. Oui, j'ai entendu causer, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu.
Alors, si je peux me permettre, petite précision, la conférence de Berlin, donc de 1885, opère le découpage colonial de l'Afrique. Et donc ici, pour le Togo, il s'agit principalement des Français et des Anglais. Donc cette conférence a lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Les pays réunis sont le Portugal, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suède, la Norvège et bien sûr les États-Unis, nouveau pays triomphant du 19e siècle.
Il y avait tout ce monde ?
Il y avait du monde, oui, oui, il y avait du monde. Je te dis, c'est un peu l'arrangement entre occidentaux d'un partage africain, du continent africain en tout cas. Donc finalement, l'Allemagne récupère le Togo en 1884. Et les thèmes abordés lors de cette conférence sont la liberté de navigation et de commerce et quelques modalités d'installation sur les côtes. Et le médiateur de cette conférence n'est autre que Bismarck, évidemment, le chancelier allemand qui a défait la France en 1871, okay. On s'en rappelle. Voilà, pour un petit retour historique sur les choses.
D'accord. Eh bien, j'imaginais pas qu'il y avait autant de monde pour se, pour se découper le gâteau.
Et si.
Oh là là.
C'est les rivalités qui commençaient à être un peu trop importantes entre les différents pays européens et donc les États-Unis. Et il fallait un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, on n'a pas vraiment joué au Monopoly, mais on a quand même tracé au crayon les limites, les frontières des pays africains. Oui. Mm-hmm. Et donc, certaines populations comme les Ewe, je crois,
oui.
Tu vas aller en parler.
Oui.
On était un peu laissés pour compte là-dedans.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on a partagé leur terre, on leur a pas demandé leur avis, et ils se sont trouvés. C'est comme ça que eux de notre globe-trotter me parlaient d'un trou qu'il y avait dans le grillage frontalier, et les gens attendaient. En file indienne, derrière ce grillage tailladé, ils attendaient que le chargé de la régulation des passages à la frontière aille boire un pot avec le petit bakchiche qu'on lui aurait mis dans la poche. Une fois que le gars était allé siroter sa bière, tout le monde, la cinquantaine de personnes qui faisaient la queue à l'entaille du grillage, passaient aller voir leur famille au Ghana.
C'est un peu, ça paraît drôle un peu comme ça vu de loin, mais sur le terrain ça doit pas être pareil quand même.
Eh bien, eux nous disaient que c'était plutôt sympa parce que d'accord, tout le monde le savait, le chargé de la surveillance de la frontière, l'agent de la surveillance de la frontière savait très bien ce qui allait se passer. D'accord. Plus le bakchiche était gros, plus il était content, plus il restait longtemps.
Et oui, d'accord. Bon, c'était un peu un petit jeu comme ça.
Oui, c'était un petit jeu. Et notre visiteur, il avait l'air de trouver ça amusant pour tout le monde.
Bon, voilà. C'est que les choses sont tellement dramatiques autrement
que... Oui, voilà, c'est ça. Quand il y a quelque chose dont on peut rire, eh ben, faut pas se gêner, oui, parce que c'est pas tous les matins. Oui. Au niveau économique, au niveau des ressources, il y a les phosphates. Hein, je crois que le Togo est le troisième pays mondial producteur de phosphates. Oui, il me semble.
Je suppose que ça.
Eux m'avaient parlé aussi de clinkers. Et les clinkers, moi je pensais que c'était des terres rares, mais non. Les clinkers, c'est un minerai composite qui sert de liant dans les ciments. Hein. Alors il y a de la silice, bien entendu, et autre chose qui m'échappe. Et tout ça bien touillé avec de l'eau, et ben ça fait du ciment. Bien entendu, le monde entier a besoin de ça pour construire des belles autoroutes et des beaux HLM et des tours de 50 étages. Mais avec cette histoire de frontières tailladées n'importe comment et de familles coupées par la frontière, il y aurait de quoi s'énerver. Il y aurait de quoi, par exemple. Susciter, disons, des conflits de nations ou même des conflits ethniques. On parle beaucoup des conflits ethniques en Afrique, mais là, il y aurait peut-être des raisons de s'énerver. Les familles sont séparées, les richesses aussi, parce que la plupart des richesses, c'est un hasard, mais c'est comme ça, la plupart des richesses étaient à l'intérieur des territoires éoués. Et ce territoire ayant été attribué au Ghana, eh bien, ça a appauvri d'autant plus la population togolaise. Eh bien non, les Togolais, ils sont pacifiques, ils sont philosophes, ils espèrent, ils croient à la démocratie, ils espèrent qu'un jour, ils arriveront à créer la démocratie.
Parce que, on peut le dire, les Togolais sont vraiment philosophes, parce que les différentes ethnies auraient encore bien d'autres raisons de s'étriper. Par exemple, le recrutement des fonctionnaires et des membres du gouvernement. Bon, on l'a déjà vu dans nos émissions précédentes, il paraît assez répandu en Afrique, en tout cas dans les dictatures africaines comme celle de Omar Bongo, on l'a vu, que des membres du gouvernement, ou en tout cas les fonctionnaires, ou en tout cas les personnes qui sont nommées par le gouvernement, soient bizarrement des proches du gouvernement, voire du dictateur, et donc des membres de la famille. Ici, la famille Niasingbe, depuis 50 ans, père et fils sont au pouvoir et le recrutement de l'appareil d'État se fait de façon très simple. Toute la famille, tout d'abord, même les éléments les plus contestables, et ensuite l'ethnie Kabyé du président dans son ensemble, sinon au grand complet. Il y a de quoi créer des zizanies dans la nation la plus unie. Alors, ces tensions, dissensions et polémiques alimentent la presse, apparemment libre. Il paraît qu'on ne s'ennuie pas une seconde là-bas. Mais attention, on peut écrire et dire ce qu'on veut, pourvu que l'on ne se lance pas dans des investigations sérieuses. Par exemple, qui a organisé le massacre de Fréau-Jardin en 1993 ? Qui a assassiné le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, en 1963 ? Étienne Niasingbe Yadema s'en était ouvertement vanté, puis on a dit qu'il s'agissait d'une fanfaronnade et qu'il n'avait revendiqué ce crime qu'à des fins politiques. Quelle originalité ! Il y a bien la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui est censée rechercher les vérités délicates et apaiser les esprits. Mais c'est comme un certain article de la Constitution togolaise qui semble garantir le droit d'insurrection en cas d'abus du pouvoir gouvernemental. Les 13 000 soldats au service du chef de l'État intimident plus d'un indigné.
Car il y a au Togo une commission Vérité, Justice et Réconciliation, comme dans les pays qui ont vécu des guerres civiles alors, et dont le monde entier est plein les malheurs. Ça fait sérieux. Est-ce qu'il y en a au Congo, au Soudan ou au Nigeria ? Ça serait pas du luxe. Mais bien sûr, il faudrait pas que ces organismes un peu gadgets se mettent à enquêter. Ça serait du plus mauvais goût. Et puis, il y a aussi, je crois, le code, le collectif d'opposition démocratique, qui existe depuis 2005. C'est déjà quelque chose. Et puis, en plus, il y a l'organisation internationale ITI, Défense du Rire, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et cette organisation a salué la bonne gouvernance du Togo. Oui, 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 je répète, l'Organisation internationale d'initiative pour la transparence dans les industries extractives a salué la bonne gouvernance du Togo et lui a même donné sa bénédiction pour recevoir l'aide internationale, laquelle aide est parfois attribuée, mais bloquée, pour certains pays, à titre de sanctions. Pour indiscipline politique.
Et la population togolaise, comment est-ce qu'elle se présente ?
Alors, il paraît qu'il y en a qui sont 6 millions.
Et géographiquement ?
Ben, c'est un peu comme dans tous les pays de la ceinture maritime. Hein, le plus gros de la population est au sud parce que ce sont les centres les plus actifs.
Vers le littoral aussi.
Voilà, ce qu'on appelle la province maritime, voilà, Lomé, etc.
D'accord.
Et les campagnes au départ, disons, avant l'indépendance, les campagnes étaient les plus peuplées. Le Togo, c'était un pays très très rurale.
D'accord.
Et puis, crise économique, pillage gouvernemental et colonisateur, le chômage s'est développé et les gens sont allés chercher du travail dans les zones industrielles, du moins dans les zones actives au sud, donc vers Lomé.
Chercher du travail ou une place sur un bateau ?
Oui, de plus en plus. Aussi. De plus en plus, oui. Oui, surtout les hommes.
Et la structure éducative, le taux de scolarisation dans le pays, selon les régions ?
Alors, je t'avoue que je n'ai pas trouvé, j'ai pas cherché le taux de scolarisation exact, mais je pense qu'il est assez important.
D'accord.
Il y a plusieurs universités et le niveau du baccalauréat, par exemple, est très élevé. Eux me disaient qu'il y avait un cours de physique nucléaire dans la section littéraire du bac.
D'accord.
Alors, ça fait un peu rêver. D'accord. Alors, il paraît que les proportions de résultats ne sont pas énormes. Ça tourne autour de 25%. Mais ceci explique sans
oui.
doute cela. Hein,
d'accord. C'est... Et puis, on en parlait tout à l'heure, sur le plan économique, les entreprises qui sont présentes au Togo, elles sont togolaises
Il paraît que non. Ah. Il paraît que non, à part probablement l'entreprise de transport qu'a créée Nicolas Grunitzky, le deuxième président de la République, avant qu'il y ait des mains
prennent
le pouvoir, oui. Je ne sais pas si elle perdure cette entreprise de transport, mais c'est sûr qu'il y en avait besoin. Donc Grunitzky a fait sa fortune par quelques années à la présidence et puis dans son entreprise de transport. Mais à part ça, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Elles sont surtout chinoises, anglaises, américaines, françaises ou allemandes.
D'accord.
Voilà.
Et puis, bon, on parle de l'industrie, mais l'artisanat, le commerce. Les Mama Benz,
alors, les Mama Benz. Les Mama Benz, je crois que c'était une particularité togolaise, mais il paraît qu'il y en a un petit peu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des femmes qui ont pris leur destin en main et celui de leur famille. Donc les femmes
sont très présentes
sont
en tout cas,
très présentes,
au marché, par exemple.
Très actives, voilà. Et elles avaient commencé, enfin un secteur qui leur avait particulièrement réussi, c'était le textile. Je suis en train de chercher le nom de ce tissu. Eh ben non, je ne le trouverai pas. Ces tissus imprimés africains tout à fait reconnaissables, et elles faisaient le travail elles-mêmes, elles faisaient l'impression, vous savez, genre tie and tie de... ou les impressions à la cire.
D'accord.
Hein? On fait des dessins à la cire sur un tissu et on le plonge dans le
d'accord.
dans la couleur,
okay.
dans le bain de couleur. Et après, on enlève la cire et à la place de la cire, il y a un dessin blanc.
D'accord, voilà. Très bien. Ouais. Voilà. Donc finalement, leur rôle n'est pas vraiment politique, il est plus économique. Plus en plus politique.
Oui, pardon, ils deviennent de plus en plus politiques. Il y a une dame qui est ministre des droits de l'homme.
Oui.
Mais.
Puis je crois que tu m'avais parlé de quelque chose juste avant l'émission. Alors finalement, elles sont un peu politisées malgré elles, puisque nous sommes en 2013, on est donc 20 ans après le massacre de Fréau-Jardin, qui a lieu en 93, on en parlera peut-être
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, tout à fait, oui.
Et les répressions, on va y venir, mais je crois que malgré elles ont été partie prenante du jeu politique, puisque pendant cette commémoration donc, du massacre de Fréau-Jardin, le gouvernement, enfin tu vas peut-être mieux en parler que moi, nous a pris à partie.
Oui, je vois où tu vas. Oui, effectivement. Les femmes donc font marcher le commerce, l'artisanat et le commerce. Et dans la commémoration qu'il y a eu en janvier 2013 du massacre de Fréau-Jardin qui avait fait 50 morts par l'intervention policière, les marchés, il y a eu deux grands marchés à Lomé qui ont été incendiés.
D'accord.
À mon avis, l'origine de ces incendies n'est pas mystérieuse. Tout le monde se rejette la responsabilité. Je pense...
bon, oui.
J'ai une petite idée là-dessus qui est partagée par beaucoup de monde. C'était une façon de
montrer
de la boucler aux femmes. Quoi,
oui.
Voilà.
Mais montrer bon. Que le régime était toujours aussi dur. Bon, voilà. On ne va pas affirmer que c'est le régime, puisque rien ne nous permet de le faire.
Voilà, voilà.
Mais donc, du coup, finalement, elles sont un peu prises à partie, voilà. Malgré elles aussi, dans le jeu politique.
Exactement, exactement. Bon. Mais bon, ce sont peut-être des élucubrations personnelles.
J'en doute, mais...
Bon.
Bon. Et finalement, sur le plan historique, maintenant, on en a un peu parlé avec la conférence de Berlin de 84 à 85. Donc... Concrètement, comme beaucoup de pays d'Afrique et surtout d'Afrique de l'Ouest, l'histoire est mêlée de colonisation, de protectorat, finalement d'indépendance. Comme beaucoup de pays d'Afrique, le Togo a pris son indépendance en 1960, le 27 avril, si je ne me trompe pas.
Ouh, t'es précis.
C'est de la précision, ça.
Ah oui, oui.
Et quelques noms, surtout on se rappelle d'un nom en particulier qui est celui de Olympio.
Oui.
Qualifié comme un peu le père de l'indépendance, ou
le
en tout
père
cas,
de l'indépendance,
tu en parleras
oui.
mieux que moi.
Oui, parce qu'il avait, il a gagné l'indépendance. Il était dans l'opposition au protectorat depuis les années 40. Et il a surtout, c'était moi l'impression qu'il m'a laissé, c'était un personnage charismatique, mais surtout un personnage extrêmement doué. Et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup penser à Thomas Sankara.
D'accord.
C'est-à-dire d'une très grande rigueur économique, quelqu'un de très près du peuple.
D'accord.
Quand il a été assassiné, sur un parking, mais par exemple, il se promenait en vélo dans Lomé. Hein,
d'accord.
Au lieu d'avoir une caravane de Mercedes, il se promenait en vélo. Et... Il a été assassiné. Il s'est sur un parking. Il a essayé de se mettre à l'abri dans une voiture qui n'était pas la sienne.
D'accord. Bon, donc Sylvanus Olympio pour l'indépendance et des volontés un peu positives pour le pays. Après, on a des noms comme Grunitzky dont on a parlé tout à l'heure.
Il n'y a pas grand-chose à en dire.
Non, Grunitzky. D'autres événements bien plus tragiques qui sont les premiers janvier agités.
Oui, alors les premiers janvier agités, c'est une information un petit peu parcellaire.
À vérifier,
qui circulait il y a une quinzaine d'années. C'était une manière assez musclée qu'avait Étienne Ayadema de se débarrasser d'une brochette d'opposants à chaque 1er janvier.
Mais voilà. Donc les 1er janvier agités. Hein.
Des 1er janvier agités, voilà.
Bon, puis il y a eu des élections aussi depuis la Deuxième Guerre mondiale, je crois.
Voilà, alors les élections, à part l'élection de Sylvanus Olympio, dès que Sylvanus Olympio a été assassiné, avec la bénédiction et l'aide pratique de l'ambassade de France, hein, on en avait parlé il y a quelques semaines, à ce moment-là, la France a repris la main sur le fonctionnement politique du Togo et toutes les élections étaient truquées. Hein. Eux me confirmaient la semaine dernière que c'était la tarte à la crème.
Quoi. Oui, comme un peu dans les autres pays, comme on l'a vu pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines.
Voilà, voilà.
Avec l'histoire de la France-Afrique.
Exactement, exactement. C'est vraiment la France-Afrique dans toute sa splendeur.
Oui. Afrique avec un C, bien sûr. Hein.
Oui, Afrique.
Bon, donc finalement, on n'entend pas tellement parler du Togo que ça. Est-ce que cela veut dire que c'est un havre de paix? Ça m'étonnerait. Comment est-ce que l'information circule à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a des journalistes? Est-ce que la presse est vivace ou pas?
Alors, on n'entend pas parler du Togo parce que notre presse ne s'y intéresse pas. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Peut-être Mediapart maintenant.
Oui, peut-être, oui.
Je me suis branchée dessus. Mais sinon, l'Europe, l'Occident ne s'intéresse pas au Togo. Par Internet, on peut avoir des informations. Bon, en cherchant, par exemple, tout ce qu'on a réuni, c'est
oui,
une autre histoire.
La plus intéressante.
Un petit peu prétentieux. Bon, on la trouve bien sûr sur Internet en cherchant simplement. Moi, vous tapez Togo, par exemple, 1992. Là, il y a commencé à avoir des mouvements très durs, des mouvements réprimés de façon très violente. Alors Togo, 90, 92, 93, bien sûr, avec le massacre de Fréau-Jardin. Et là, vous avez déjà beaucoup d'informations. Mais je crois que tu as trouvé quelque chose d'hyper intéressant avec le site de survie.
Survie, alors oui. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'y plonger autant qu'il aurait fallu. Mais en tout cas, pour les auditeurs que ça intéresse, survie donc est un très bonne référence pour tout ce type d'informations. Survie, peut-être tu en parleras un peu mieux que moi. C'est une association qui veut mettre en avant un peu les abus qui existent sur le plan politique, économique et sociaux en Afrique, je crois, sans me tromper. C'est une association avant tout.
C'était une association, ça a été créé par 124 prix Nobel de la paix.
D'accord.
Et disons, le porte-parole principal de l'association, c'est François-Xavier Verschave qui a rédigé tous les ouvrages sur la France-Afrique dont on vous a parlé depuis quelques mois.
Très bien. Bon, donc vous pouvez faire confiance au site.
Oui, tout à fait.
Il y a des ouvrages et puis des articles aussi directement sur le site, donc survie. Alors, je ne sais plus si c'est .com, mais n'hésitez pas à taper sur le G. De
Survie Togo, voilà.
Oui, sur le fameux moteur de recherche, n'hésitez pas à taper survie et vous tomberez sur le site, j'en suis sûr. Donc finalement, pour retomber sur nos pas, les journalistes et les moyens de contestation, ils sont pas très nombreux d'après ce que j'ai compris, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la Constitution, il y a un article qui précise qu'il y a un droit à l'insurrection si le gouvernement use de son pouvoir de manière abusive.
Voilà,
Finalement, c'est pas bien respecté tout ça parce qu'il y a eu des marches, je crois. Donc les manifestations, les marches urbaines sont un moyen de contestation bien utilisé par les Togolais malgré les dangers qu'ils encourent. Alors je sais qu'on peut en parler de deux. Il y en a une le 23 juillet 2009 qui a été réprimée et on a un compte rendu d'une répression qui a eu lieu cette fois les 17 et 18 mars 2011. Donc voilà, ce compte rendu fait état donc de la répression qui a eu lieu pour ces marches pacifiques qui étaient organisées par la FRAC et le Parti des Travailleurs.
Oui, il y avait le Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, Pascal Bojona, qui avait mis au point une loi pour supprimer la liberté de réunion et de manifestation, alors que c'était la seule liberté, la liberté de manifestation, la seule liberté qui restait aux Togolais. Alors évidemment, il y a eu une grosse protestation, et le pouvoir a donné l'ordre de tirer sur la foule. Alors il y a eu, je crois, une cinquantaine de blessés. J'ai pas sorti la liste, nominativement. Voilà, il y a eu 52 personnes, il y a eu 100 blessés. Voilà. La manifestation du 17 mars 2011, 52 personnes ont été recensées sur plus de 100 blessés, 7 graves, 24 moins graves, 21 blessés légers. Alors, on peut remarquer dans ces bilans, on peut remarquer que la famille, les descendants et les collatéraux de Sylvanus Olympio, la famille Olympio, est toujours la cible du pouvoir. Gilles Christ Olympio était le leader de l'opposition et il a été attaqué dans un attentat en 92. Dans sa voiture, quatre des occupants, qui étaient bien sûr des militants opposants avec lui, quatre de ces militants ont été tués et lui, Gilles Christ Olympio, a été très gravement blessé et la Côte d'Ivoire l'a fait quasiment enlever par avion et l'a embarqué donc en Côte d'Ivoire et l'a retransmis, si je puis dire, à Paris pour le soigner. Et par la suite, il est resté à Paris, il est resté en exil, mais en s'occupant toujours de la diaspora et du collectif qu'il a appelé le collectif pour la vérité des urnes. Hein. Diaspora CVU, c'est l'organisme qu'il a mis en place pour essayer de maintenir la flamme de la liberté. Et dans la répression des 17 et 18 mars 2011, dont on a un rapport là sous les yeux, eh bien, on nous dit que les 43 personnes, dont le député Robert Olympio, ont été arrêtées et détenues par la gendarmerie le jeudi 17 mars 2011 à l'occasion de la marche pacifique contre le projet de loi liberticide de Pascal Boggiona. Voilà. Voilà, Olympio, c'est un très beau nom, mais il est lourd à porter.
Donc, comme forme de contestation, on a donc les marches. Et je crois qu'une initiative assez particulière et assez osée a été prise par une femme. Une lettre ouverte de destitution adressée à Faure Gnassingbé, donc l'actuel président. Cette lettre a été rédigée par une femme qui ne donne pas son nom, évidemment. On comprend pourquoi. Mais cette femme parle de vol de souveraineté perpétré par le RPT, le Rassemblement du Peuple Togolais. Elle dit aussi « Votre règne prend fin en ce jour, le 26 février 2011 ». Donc c'est une lettre de destitution qui s'est impérative, ce n'est pas une demande, c'est finalement...
Dégage non.
Voilà, dégage, c'est ça. Votre départ n'est pas une option, mais une exigence. Nous vous informons que vous êtes destitué. Donc voilà, donc... Malheureusement, je pense pas que ça ait porté ses fruits.
Hélas, non.
Mais on voit qu'il y a donc quand même une certaine conscience politique, hein, une forte conscience politique même, donc à la fois avec les manifestations de rue et des lettres ouvertes comme celle-là.
On va peut-être se faire une petite pause musicale, si vous êtes d'accord. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, et ben on la fait quand même, parce qu'on ne peut plus parler.
La musique parfume l'air et nous voici dans un autre monde. La vue est synoptique, lis donc le synopsis. Mes songes, ma plume, j'affute ma vision vite. Avec ma plume, je l'évite, vu qu'elle est galactique et qu'elle reste galante. Avec mes idées fixes, elle est charmante. La preuve, mes pensées se fichent. Dans l'écriture, depuis la lune, je décris la vie que je vise. Je panique et j'ai pas de mal à le dire quand je réalise ce qu'est cette grosse boule bleue. Et ces hommes, ils se prennent pour Dieu. Et cet énorme frère du globe, le savoir est une gourmandise, souvent plus que parfois un délice. Alors savoure-le, la lune mon île, notre mode de pensée. Je livre, je me jette à l'eau depuis que mon univers est océanique. Embarque avec nous
pour un voyage sur la lune.
Des étoiles, on rêve tous.
Prenons donc un peu de recul.
Une trêve ou une pause.
Dans un monde au grand de la lune.
Soyons prêts pour autre chose, un itinéraire sans calcul. Embarque avec nous
pour un voyage sur la lune.
Des étoiles, on rêve tous.
Prenons donc un peu de recul.
Une trêve ou une pause.
Dans un monde au grand de la lune.
Soyons prêts pour autre chose, un itinéraire sans calcul. Embarque avec nous. Embarque avec nous. Continue ma balade perdue, j'oublie le macadam. Au clair de Vénus, je me pavane, je me sens mieux sur ce satellite. Depuis toujours en marge, notre musique court et valse. Et si elle tourne, c'est en orbite. D'un style cool et pas artificiel, nous autres sélénites sommes vieux. De plusieurs siècles, ici je vogue et j'élimine ce qu'ils offrent sur la terre. Le vol, la haine, les bombes, la flemme. Venez donc que l'on sorte dans le ciel. Et de ce que la musique veut, mesdames et messieurs, nous sommes des êtres célestes, loin d'être supérieurs. Sans apesanteur, je pars en saut périlleux et j'atterris sur un morceau de tissu. Je m'arrête, je le décrypte, je vois des étoiles, des rayures. Je m'apprête à le fuir, mais à moi l'oxygène se refuse. Et pas à pas, je réalise qu'il s'agit d'un état qui nuit. Les mots et les mots m'attrapent, je me dis qu'ils sont partout ces colons. Dites-moi si je me trompe, tant pis, il faut que l'on file car car le soleil gronde, l'avenir nous dira si un jour la musique nous délivrera de l'ombre.
Embarque avec nous pour un voyage sur la lune.
Les étoiles on rêve tous,
donc un peu de recul.
Une trêve ou une pause
dans un monde au grand de la lune.
Soyons prêts pour autre chose, un itinéraire sans calcul. Embarque avec nous
pour un voyage sur la lune.
Les étoiles on rêve tous,
donc un peu de recul.
Une trêve ou une pause
dans un monde au grand de la lune.
Soyons prêts pour autre chose, un itinéraire sans calcul. Embarque avec nous. Avec nous.
Voilà. Alors, on voulait vous parler de toutes les tentatives ou de toutes, j'allais dire, les mascarades.
J'ai une question, moi, avant tout. Qu'est-ce que c'était la musique qu'on a entendue ?
Je crois que c'était AzadLab, ce que j'appelle le voyage dans la Lune.
Voilà, c'est le morceau s'appelait Sélénite, donc, Sélénite, notre
ouais.
groupe toulousain AzadLab.
Voilà. Eh bien non, on ne plaisante pas du tout, parce qu'on va vous parler de la place des femmes dans le gouvernement en Niassembe. Alors, il y a une dame qui s'appelle Doris Wilson. Madame la ministre Doris Wilson, ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie et de la Formation Civique. Elle félicite, elle cautionne avec l'Association des Droits de l'Homme. Elle cautionne toute la politique de Niassembe et c'est assez sinistre. Alors, elle dit « La démocratie ne s'arrête pas. Le Togo a fait d'énormes efforts dans la liberté d'expression et dans l'organisation des élections. Le peuple peut valablement exprimer sa volonté dans les débats de la nation. » Célébration de la Journée internationale de la démocratie qui se poursuit avec des formations de personnel des médias. Eh bien, je voudrais bien savoir comment se passe la formation des personnels des médias avec un chaperon pareil.
Donc, si je peux me permettre, je crois que ce qu'il faut comprendre aussi avec le Togo, mais avec d'autres pays d'Afrique, c'est qu'il est important de bien paraître aussi aux yeux de l'international du monde. Et notamment des institutions comme l'ONU ou d'autres institutions. Et donc pour ce faire, les gouvernements essaient de mettre en place une sorte de petit paradis institutionnel avec un ministre de la culture, avec tout un tas de structures qui, en théorie, devraient permettre une amélioration des conditions de vie de la population, mais qui en fait est un leurre.
Tout à fait.
Et qui n'est que du maquillage. Et je crois qu'on a quelques exemples, alors je ne sais plus qu'on retrouve les notes. Tu me l'as montré tout à l'heure, Daniel. Qu'est-ce que c'est qu'on avait ?
Alors, il y a déjà donc cette fameuse association togolaise.
Ministre des droits de l'homme.
Voilà. J'ai trouvé des notes assez curieuses. Cette association togolaise des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, pour moi, c'est un monument, c'est une autorité
sacrée.
Oui, absolument. Et ben là, pas du tout, parce que là, on a une diatribe historique sur les horreurs du régime qui écrase le pays depuis un demi-siècle, mais on ne cite que les entraves à la liberté d'expression. On oublie l'assassinat du père de l'indépendance, donc de Sylvanus Olympio. On oublie, je ne sais plus si on l'a dit, que c'était Yadema qui s'était vanté d'avoir assassiné Sylvanus
Olympio. Si, on l'avait dit, par visée politique.
Oui, c'était pour dire. C'était pour dire, vous voyez comme je suis fort, donc c'est moi le plus fort, attention, guerre à vous. Voilà. Oui. Voilà. Et puis après, le Yadema, pour la vitrine politique, il s'est dit qu'un assassin à la tête du pays, ça ferait un peu tâche. Alors il a dit que non, que c'était pas lui, qu'il avait assumé la responsabilité pour des raisons politiques, mais que c'était pas lui et qu'il avait tout à fait. Il était tout à fait innocent de la chose. Bon.
Donc, j'allais dire la TDH, donc l'Association Togolaise des Droits de l'Homme, elle oublie un certain nombre de choses. Mmh. Elle oublie aussi l'attentat de 1992.
Voilà, contre Gilles Christ Olympio. Voilà.
Le massacre de Fréau-Jardin de 93, dont on a déjà parlé.
Voilà, avec 50 morts par balle, oui.
Donc, en façade, c'est bien qu'il y ait cette association, mais elle ne met pas tous les problèmes sur la table.
Mais non, surtout pas.
Et pas les problèmes les plus épineux, les problèmes qui sont chargés de mort, finalement, les événements qui sont les plus dramatiques,
oui. Voilà. Oui, donc, une ministre des droits de l'homme, une association togolaise des droits de l'homme qui sert à rien, ou pas à grand chose. Il y avait l'ITI dont on a parlé tout à l'heure, qui est dont le rôle est de contrôler les retombées économiques des exploitations minières, voir la façon dont ça profite au peuple. Eh bien, ça ne profite pas du tout au peuple. Il y a seulement 10% des résultats de ces exploitations minières qui tombent dans la poche du gouvernement. Et puis, c'est tout. Et le peuple, il ne voit rien passer.
Si je peux me permettre, j'avais trouvé une petite définition de l'ITI.
Oui.
Pour être peut-être un peu plus clair, parce que même moi j'ai du mal un peu avec toutes ces initiatives, tous ces instituts, toutes ces structures. Donc l'ITI, ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives.
Voilà.
C'est une norme globale de 21 exigences dont le principe engage le gouvernement, les entreprises extractives et la société civile. Donc finalement, c'est un peu un liant entre ces trois entités qui sont le gouvernement, les entreprises et la société. Et ce processus, donc, parce que finalement c'est un processus, c'est une initiative, il s'effectue en trois phases. Il y a d'abord la phase d'adhésion, la phase de pays candidat, puis la phase de pays conforme. Et donc, le Togo actuellement est admis en tant que pays candidat, et c'est le cas depuis 2010. Voilà, un peu pour quelques précisions par rapport à...
Notre visiteur la semaine dernière m'avait dit qu'il y avait seulement deux entreprises qui déclaraient leurs revenus à l'ITI. Mais l'ITI a quand même déclaré le Togo comme ayant une bonne gouvernance. Hein, c'est l'expression consacrée.
C'est
voilà,
ça.
Alors on ne sait plus... Voilà.
Et puis, ouais.
Alors, il y avait, il y a eu la journée de la de PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et au cours de cette journée, Ban Ki-moon s'est déplacé et a accordé sa bénédiction au gouvernement togolais. Il y a eu aussi une création, toujours pour valider finalement la gestion économique du Togo. Il y a eu la création d'une toute nouvelle Cour des comptes. Alors, une Cour des comptes flamboyante dans Lomé, c'est un immeuble superbe, ça coûte très cher, il y a plein de fonctionnaires évidemment qui appartiennent à l'ethnie gouvernementale, et puis depuis 2 ou 3 ans qu'ils sont installés, eh ben, ils font rien. Ils produisent rien, aucun audit, aucun rapport permettant au peuple de savoir ce que l'on fait du beau patrimoine qu'est la terre togolaise.
Et pour finir
alors je crois que le pire pour moi, ce que j'ai vu le pire dans toute cette mascarade, c'est
le soutien,
la bénédiction de l'ambassadrice des États-Unis. Alors ça, c'est
Patricia,
ça. Voilà, Patricia Hawkins. Ben, je te laisse t'en occuper parce que moi, ça m'écœure.
Ouais. Voilà. Donc voilà, donc les bénédictions de l'ambassadrice des États-Unis, Madame Patricia Hawkins, qui décerne un bon point à Fourenia Sengbe pour la limpidité exemplaire de son élection, alors que le trucage des élections a été flagrant et qu'elle a été reconnue par, ou en tout cas qu'il a été reconnu comme très suspect, les élections ont été reconnues comme très suspect, notamment par la mission d'observation électorale européenne, je crois, et d'autres groupes officiels. Et apparemment, Madame Hawkins justifiait par là l'effacement de la dette togolaise. Oui, parce qu'on comprend qu'il est difficile, peut-être officiellement et sur le plan diplomatique, d'accepter qu'on réduise la dette d'un pays sous dictature.
Oui.
Et qui vaut mieux.
Oui, c'est le fameux mot de l'histoire.
Il vaut mieux présenter le pays comme. Comme étant un pays libre, où il y a un pluralisme des partis et où les élections se déroulent bien, si l'international lui fait quelques faveurs, comme l'effacement de la dette, qui n'est pas une faveur, qui n'est pas une petite faveur quand même, il faut le dire. Bon, c'est quand même un bon pas en avant pour la libération, en tout cas économique, des Africains, même si elle n'est pas totale. En tout cas, voilà, cette Madame Hawkins affiche un soutien inconditionnel à Monsieur Nyasimbe, ce qui est un peu
ce qui va contre les recommandations du président américain qui appelait de ses voeux la régularité des élections partout en Afrique. Voilà. Maintenant. J'aurais voulu qu'on parle des partis politiques. Que Nyasimbe a voulu instaurer ou officialiser, légaliser un parti unique en 90, il y a eu une levée de boucliers pas possible, enfin de boucliers, une protestation, disons, très très virulente, parce que les Togolais sont très très conscients et très politisés. Et comme le torchon brûlait, le gouvernement a dit « Bon, eh ben, on va faire des élections. En attendant, on va mettre un gouvernement provisoire. » Alors, il y a eu un gouvernement théoriquement provisoire. Au bout de ça, il y a eu des élections, je crois, en 92. Je ne sais plus la date des élections. Enfin, quelque chose comme ça.
Je ne me rappelle pas.
Et évidemment, les élections étaient truquées comme d'hab. Hein. Il n'y avait pas, il y a rien de nouveau sous le soleil. Mais étant donné le climat d'insurrection, le climat de protestation, disons, qu'il y avait, les diplomates français et allemands se sont un petit peu se sont déplacés, sont allés voir de près, disons, ce qui se passait. Et évidemment, toujours par souci de d'élégance et pour soigner la réputation du gouvernement, Niasembe a voulu faire quelque chose. Alors il a eu une idée et il s'est souvenu qu'il y a un très bon principe en politique, c'est de diviser pour régner. Et il a dit, vous voulez pas de mon parti unique ? Oh ben c'est pas grave, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et il a dynamisé toutes les oppositions multiples et variées. Alors le Togo a des dizaines de partis politiques qui évidemment se mettent sur la figure, plus ou moins, et dont les forces s'annulent évidemment. Et le seul parti qui tire ses marrons du feu, ben, c'est le Rassemblement du Peuple Togolais gouvernemental.
Pour continuer sur notre lancée, petite citation donc de Madame Hawkins que je trouve là.
Oui.
Alors, accrochez-vous. En mars 2010, le Togo a organisé l'élection présidentielle la plus réussie et la plus transparente de son histoire, laissant un exemple que ses voisins devraient suivre. Voilà, en clair, les mots de Madame Hawkins.
Oui, mais tu me corriges au passage, parce que moi j'avais dit 2012, excusez-moi.
Oui.
Non, mais
J'aurais pu te reprendre sur le moment. Bon, bref. Donc
oui,
2010,
hein, d'accord. Oui, c'est vrai que tout est parti de 2010, bien sûr, c'est vrai. C'est tout à fait vrai.
Donc, voilà pour la situation, même si elle est en total décalage avec les affirmations de M. Obama, comme voilà. Tu viens de le dire.
Voilà, voilà. Bon, et puis maintenant, il y a depuis 8 jours, 15 jours, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être constitué et qui raconte toujours la même histoire, que le Togo était en marche vers la prospérité, la démocratie et le bonheur. Et bien, il n'y a plus qu'à attendre que
les choses s'arrangent.
Que les choses s'arrangent. Mais moi, j'ai l'impression... J'ai jeté un coup d'œil un peu transversal sur la doc que tu m'as envoyée de survie. Et je commence à y croire.
D'accord. Eh bien, très bien. J'irai voir alors pour essayer d'y croire un peu. N'hésitez
parce
pas à y aller,
que
survie.
Faut dire, les Togolais sont vraiment des gens très conscients.
Oui.
Très, très dynamiques, complètement attachés au mouvement pacifique. Et... moi, je crois qu'ils vont s'en sortir. Je crois qu'ils vont s'en sortir. Il va se passer quelque chose, là, d'après les...
D'après les articles.
Oui, d'après... Je n'ai vu que les titres, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des soucis à se faire.
D'accord. Uh-huh. Bon. Ben voilà pour notre émission sur le Togo, en tout cas. On se quitte peut-être avec une autre chanson. Notre musique, qu'est-ce que tu vas nous proposer ?
Oh ben j'allais vous refaire le coup de la République, mais c'est la République française. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on a.
On a encore Azad Lab. Qu'est-ce qu'on a ?
Ben oui.
Merci et bonne semaine à vous.
La politique France-Afrique, c'est du blague.